L'invité de la matinale, Philippe Dornier.
Si vous galérez pour trouver un orthophoniste disponible avant 6 mois, 1 an, voire encore plus, c'est le moment de nous appeler au 02 62 99 2000. Pourquoi avez-vous besoin d'un rendez-vous rapide? Comment évolue votre situation ou celle de votre enfant en l'absence d'accompagnement? Vous pouvez aussi nous dire si vous avez signé la pétition en faveur de la création sur notre île d'un centre de formation. Une pétition lancée par le syndicat des orthophonistes de La Réunion, sa vice-présidente et votre invité Philippe Dornier.
Bonjour Lydie Marin.
Bonjour.
Les orthophonistes, tout le monde n'y a pas recours, heureusement, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Et donc, on ne connaît pas forcément le rôle que vous jouez. À partir de quel moment on fait appel à vous ?
Ben, on peut faire appel à nous quand l'enfant a du mal à commencer à parler, à développer son langage. On peut aussi agir quand il y a des troubles de l'articulation. On peut aussi agir quand il y a des difficultés au niveau respiration, mastication, et ça impacte en fait l'articulé dentaire. Donc on travaille aussi avec des orthodontistes. Ça, on peut faire appel à nous quand il y a des difficultés dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, des habiletés numériques, donc des mathématiques aussi, puisqu'on s'en occupe quand il y a des troubles.
Les troubles dys notamment ?
Oui, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysphasie. Hein. On a aussi des troubles spécifiques du langage oral. On peut aussi faire appel à nous quand des adultes ont des problèmes de voix. C'est les ORL qui nous les envoient, du coup. Et ensuite, on peut aussi, des bébés, agir quand il y a des troubles de l'oralité, quand il y a des syndromes génétiques qui ont été détectés. Et on sait, avec la recherche, que certains syndromes engendrent des difficultés de développement du langage, des interactions, de l'alimentation aussi. Et puis après, pour les adultes, comme vous en parliez tout à l'heure, post-AVC, avec des troubles du langage, de l'articulation, tout ce qui est maladie neurodégénérative aussi, on peut aider les malades Alzheimer, Parkinson, ceux qui présentent une sclérose latérale amyotrophique ou sclérose en plaques, et plein d'autres mauvaises choses qui engendrent des difficultés. La dysphagie aussi. Dysphagie, c'est le trouble de la déglutition. Hein, par exemple, post-AVC, on peut avoir des patients qui, au niveau du langage, ça va, mais au niveau de la déglutition, bah, ils n'arrivent plus à avaler. Donc, parfois, on est obligé de les gastrostomiser, hein, parce qu'ils ne peuvent plus
non,
se nourrir.
Quoi,
la gastrostomie, c'est un trou qu'on fait...
Et c'est vous qui le pratiquez, ça ?
Ah non. C'est un chirurgien
c'est
qui
un
fait
chirurgien.
Ça.
Mais vous, vous faites le service après-vente.
Mais nous, on essaye au départ de voir s'il y a des possibilités de récupérer des capacités. Parce que quand on ne peut plus boire, quand on ne peut plus manger, il y a plein d'autres choses en fait qui se développent, des difficultés. Donc on peut être amené à essayer de faire des choses pour ces patients-là aussi. Donc en fait, on balaye du bébé jusqu'à la personne âgée, en passant par les adultes. On est un peu partout.
Oui, donc beaucoup d'occasions de vous solliciter.
Tout à fait.
C'est sur prescription médicale ?
Absolument.
Systématiquement ?
Systématiquement.
Et donc, alors, du coup, on comprend moins ces délais. Parce que si mon ORL me dit d'aller voir une orthophoniste, il ne me dit pas d'y aller dans un an.
Ah non. Si le médecin prescrit un bilan, il faudrait, dans le meilleur des cas, se voir assez rapidement, effectivement.
Mais on est prioritaire quand on a une prescription ou pas ?
Ah non,
puisque c'est tout le monde.
Ben non, tout le monde a besoin d'une prescription pour accéder au bilan orthophonique. Donc
Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous dites ce matin à tous ceux qui s'arrachent les cheveux en essayant d'obtenir un rendez-vous alors qu'on leur en propose, hein, mais donc dans 6 mois, dans le meilleur des cas ?
Dans le meilleur des cas, 6 mois, oui. Dans le pire des cas, dans l'Est, on est quasiment à 3 ans d'attente. Ouais.
3 ans d'attente.
Et nous, les orthophonistes, on est très mal aussi parce qu'on sait que toutes ces personnes ont besoin d'un bilan, ont besoin de soins. Alors tous les bilans ne donnent pas forcément, comment dire. C'est pas parce qu'on fait un bilan orthophonique qu'il va y avoir une rééducation derrière. Mais le bilan orthophonique, c'est un état des lieux.
Permet de savoir si c'est nécessaire ou pas.
Voilà, exactement.
Mais le bilan, pour venir faire un bilan, est-ce que là, au moins, on est prioritaire ? Parce qu'un bilan, il y a urgence à faire un bilan.
Ben, prioritaire, tout dépend de l'agenda et des disponibilités de l'orthophoniste. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un bilan et quand on met en place une prise en soins, en fonction de la codification et en fonction du trouble et des symptômes qu'on traite, on est parti pour 50 séances, voire 100 séances, voire avec des renouvellements parce qu'il y a encore besoin après 50 ou 100 séances de rééducation.
Et vous êtes 500 orthophonistes à La Réunion. Il en faudrait plus ou bien c'est juste un problème de répartition ?
Ah non, il en faudrait plus, clairement.
Alors de combien d'orthophonistes vous avez besoin ?
Alors, je ne suis pas au bureau fédéral de la Fédération nationale des orthophonistes, donc je pourrais pas vous dire il nous en faut 500, il nous en faut 1000, etc. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que on a besoin de plus d'étudiants dans les centres de formation, donc il va falloir augmenter le numerus clausus. On a besoin de plus de centres de formation, notamment hein, nous ici, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, on aimerait bien ouvrir un centre de formation à La Réunion pour que les étudiants qui sont intéressés par ces études puissent y accéder sur place. Et on se dit qu'une fois sortis, après 5 ans d'études, ils iront s'installer à La Réunion et on espère dans les zones où on en manque cruellement.
Alors il existe justement une carte qui montre avec différentes couleurs comment sont répartis les orthophonistes. Un zonage établi par l'ARS. Alors c'est simple, de Saint-Paul à Petite-Île en passant par Saint-Leu et Saint-Pierre, c'est vert foncé, autrement dit un secteur surdoté, ça veut dire qu'il y en a trop dans certains endroits. À chaque extrémité de cette zone, le port et la possession à l'ouest, Saint-Joseph dans le sud, là c'est vert clair, donc zone très dotée. Et puis en jaune, les villes dites intermédiaires, Saint-Denis, Sainte-Marie, Salazie, Sillaos, l'Entre-deux, le Tampon, la Plaine des Palmiers, il y a Saint-Benoît et Brapanon aussi. Et puis les moins bien lotis, alors c'est Sainte-Suzanne et Saint-André en orange sur la carte. Et encore pire, Sainte-Rose et Saint-Philippe en zone rouge. Sainte-Rose et Saint-Philippe qui sont les deux seules communes où un contrat incitatif peut être signé. Pourquoi et c'est quoi ce contrat incitatif?
Alors ça permet d'inciter les orthophonistes à s'installer plus facilement dans ces zones rouges où il va y avoir des forfaits. Alors j'ai pas les chiffres en tête, mais quand l'orthophoniste s'installe dans ces zones très sous-dotées, l'ARS, je crois que c'est l'ARS en lien avec la CGSS, qui donne de l'argent pour faciliter son installation. Donc mettre aux normes PMR, je crois.
Personne à mobilité réduite.
Voilà. Par exemple, le matériel à acheter, matériel de bilan, matériel de rééducation, matériel informatique, etc. pour faciliter l'installation et se mettre au travail le plus vite possible.
Mais contrat incitatif, pas tant que ça apparemment.
Ben non, mais en fait, on se rend compte que ce zonage-là a été fait sur base de chiffres métropolitains. Que ce soit en métropole ou ici au régional, nous pensons au syndicat des orthophonistes de La Réunion que ces chiffres n'ont pas trop de lien avec ce qui se passe sur la réalité du terrain.
Donc les patients, si je vous entends bien, ils sont condamnés à faire des dizaines de kilomètres ou à attendre des mois et des mois.
C'est ça. Alors oui, ils sont condamnés à ça. Des fois, quand on n'est pas en séance, le téléphone sonne, on peut répondre. Et on essaye d'aiguiller, on essaie de donner des conseils. On envoie parfois chez le psychomote ou chez l'orthoptiste pour déjà évaluer les compétences dont a besoin le patient pour développer ses compétences en lecture.
Et ça va pas forcément plus vite pour avoir des rendez-vous chez ces professionnels-là?
Bah, si, un petit peu plus quand même que chez les orthos, je pense. Et au téléphone, on oriente aussi vers la plateforme, le site internet alloortho.com, qui a été créé par notre fédération nationale, pour justement, en attendant le bilan orthophonique, on peut avoir beaucoup de conseils, ça répond à beaucoup de questions, il y a des podcasts, il y a des articles. Enfin, tous les gens qui s'intéressent et qui veulent essayer de faire des choses en attendant le bilan, parce qu'ils sont obligés d'attendre, peuvent aller sur ce site. C'est un site qui a été créé par les orthophonistes pour le grand public, pour essayer de trouver des solutions intermédiaires en attendant le bilan orthophonique.
7h21 sur la première, c'est la vice-présidente du syndicat des orthophonistes de La Réunion, Lydie Marin, qui est notre invitée ce matin. Vous participez, vous êtes attendue bien sûr au 02 62 99 2000. Il y a Audrey qui est avec nous, Audrey de Sainte-Suzanne. Bonjour.
Bonjour Audrey.
Bonjour Audrey.
Bonjour.
Alors Sainte-Suzanne, c'est une des villes où il y a le moins d'orthophonistes?
Ben, je confirme, puisque nous avons dû aller jusqu'à Brapanon pour avoir un rendez-vous pour notre fille.
D'accord.
Donc, on a eu un petit peu d'attente, mais on a eu de la chance malgré tout par rapport à des gens qui doivent attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, au bout de 8 mois, on a pu avoir un rendez-vous sur Brapanon. Mais voilà, en devant appeler tout le temps, partout, rappeler qu'on a toujours besoin d'un rendez-vous. Là où on était sur les listes d'attente, il fallait appeler tous les mois pour être sûr d'être toujours gardé sur la liste, en fait. Donc, c'était un petit peu compliqué, mais très, très content qu'on a pu avoir un rendez-vous sur Brapanon. Et donc, voilà, j'appelle surtout pour dire que les orthophonistes ont tout mon soutien. Je l'avais déjà avant que mon fils en ait besoin, et là encore plus. Parce qu'on se rend bien compte, en plus, je suis enseignante, donc je le vois aussi auprès de mes élèves, hein, ceux qui en ont besoin. que c'est assez compliqué, quoi.
Quand
les enfants sont pris en charge assez rapidement, en fait.
Audrey, est-ce que vous avez signé la pétition?
Oui, je l'ai fait.
D'accord. Donc elle fait lever de la victoire, Lydie Marin.
C'est parce qu'il y en a deux aussi. Il y a deux pétitions. En fait.
Oui, alors il y a deux pétitions. La pétition que vous avez lancée sur Internet, combien de personnes l'ont signée, la pétition locale, hein, parce qu'au niveau national, on en est à plus de 16 000 signatures.
Alors hier, Marion nous disait que Marion, c'est une personne qui travaille au conseil d'administration du SOR. Marion nous disait qu'on était à 221 signatures.
221 signatures.
Ouais. Oui, oui. Et on essaie, et pourtant on communique hein, sur les réseaux, avec les collègues.
Vous verrez que ça va décoller tout à l'heure, je vous promets.
On croit, merci en tout cas de votre soutien Audrey.
Merci à vous, merci pour tout le travail que vous faites, merci pour l'accompagnement des patients et des familles.
Merci beaucoup.
Nous on a pu avoir cette chance d'avoir un rendez-vous sur Brapanon. On a connu deux orthophonistes, une qui a quitté la Réunion, qui a été remplacée par la suite. Et les deux ont fait un travail formidable auprès de notre enfant, auprès de nous aussi, hein, parce que c'est pas toujours facile d'accepter que son enfant a besoin d'aide.
Tout à fait.
On a été très, très bien accompagnés, notamment pendant le confinement, avec des rendez-vous à distance, qui se sont très, très bien passés. Voilà, un accompagnement formidable, une prise en charge géniale, des progrès qui se sont vus très, très, très rapidement.
Super.
Et voilà, donc je vous encourage vraiment à continuer et vous avez tout mon soutien, vraiment.
Merci, merci. Audrey. Audrey évoquait le changement d'orthophoniste. Oui. C'est vrai que c'est mieux quand le suivi est effectué par le même professionnel d'un bout à l'autre. Et quelles sont les conséquences s'il y a une rupture d'un orthophoniste à l'autre pour un enfant ou pour un adulte?
Moi, je dirais que le principal, c'est qu'il y ait une relation de confiance qui s'installe entre le patient et l'orthophoniste. C'est important. Quand on suit depuis très longtemps, on a des suivis longs en orthophonie, hein, donc 3 ans, 4 ans de suivi. Des fois, c'est bien de changer de thérapeute.
D'accord. On va aller au standard rapidement.
Oui, à Saint-Paul, il y a Philippe qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
Oui, bonjour à tous. Oui, alors moi, je suis un fémé libéral. Je voulais juste par rapport aux zonages et en fait abondir ce thème. Mais le problème, c'est que le fait qu'il n'y ait pas d'école ici, c'est que comme pour certains infirmiers, beaucoup viennent de métropole. Leur souhait, c'est d'installer dans l'Ouest. Toutes les annonces qu'on a à tout, et je pense que les autres, c'est pareil, c'est Saint-Pierre, Saint-Leu et Saint-Gilles. Et donc, dans l'Est, il n'y a personne. Dans le Sud, il n'y a personne. S'il n'y a pas d'école avec des natifs de l'île, s'installent dans les régions sous-dotées les natifs de l'île, sauf qu'ils ne sont pas formés ici.
Oui, alors c'est vrai que c'est le problème qu'on évoque souvent. Hein, le choix, finalement, est laissé aux professionnels de s'installer là où bon lui semble, là où il a envie de vivre.
Oui.
La question, c'est si on crée un centre de formation à La Réunion, comme vous le souhaitez, qu'est-ce que ça va changer les diplômés pays eux aussi? Ils préféreront peut-être s'installer dans l'Ouest, dans le Sud?
Bah, pas forcément. Ça dépend d'où ils viennent, ça dépend ce qu'ils veulent, ça dépend si... Ça dépend de plein de choses, en fait. Comme les métropolitains qui arrivent ici. Enfin, moi, je suis arrivée il y a 4 ans, je me suis installée à Saint-Denis.
Oui, qui est une zone intermédiaire.
Elle est considérée comme intermédiaire, mais sur le terrain...
Vous avez l'impression de faire un effort en étant dionysienne?
Non, pas du tout. Moi, j'aime beaucoup travailler à Saint-Denis. Le réseau, en plus de collègues, est très sympathique. On essaie de se rencontrer, de faire du lien, de... Parfois, on se dit, on est en difficulté avec un patient parce que c'est compliqué. Est-ce que tu penses que tu pourrais apporter autre chose? Et donc, du coup, on fait un transfert, transfert de dossier, transfert de patient, pour le bien du patient, mais aussi parfois pour le bien de l'orthophoniste, parce que des fois, c'est compliqué. On a l'impression d'avoir fait le tour et qu'on a l'impression de ne pas pouvoir apporter plus que ce qu'on a déjà apporté. Non, c'est pas un effort. Je pense que c'est vraiment pas un effort de s'installer dans le Nord ou dans l'Est. Pas du tout.
02 62 99 2000. Continuez à nous appeler pour poser vos questions et témoigner au sujet des difficultés d'avoir un rendez-vous chez l'orthophoniste. Lydie Marin du syndicat des orthophonistes de La Réunion nous accompagne jusqu'à 8 ans moins 10.
L'invité de la matinale, Philippe Dornier.
Les enfants qui ont des difficultés de langage, les adultes victimes d'un AVC ou encore les gramounes qui souffrent de troubles neurologiques. Il y a mille et une raisons de faire appel à un orthophoniste, plus souvent une d'ailleurs. Mais encore faut-il décrocher un rendez-vous jusqu'à 3 ans d'attente dans l'Est, nous disait dans la première partie de notre entretien Lydie Marin, vice-présidente du syndicat des orthophonistes de La Réunion. Vous pouvez lui poser toutes vos questions au 02 62 99 2000. Et c'est ce qu'a fait
Martine, qui nous appelle de Sainte-Suzanne, de l'Est. Bonjour Martine.
Bonjour. Oui, bonjour. Donc, j'écoute avec un grand intérêt l'émission parce que je suis dans le milieu de l'enseignement. Et nous sommes confrontés toutes les années avec des enfants avec de grandes difficultés et qui ont besoin d'orthophonie. Donc, la question que je me pose, et je rejoins Philippe, le dernier auditeur, sur la prise de poste, les communes convoitées, j'emploie le mot, par beaucoup d'orthophonistes, donc les communes de l'Ouest.
Et du Sud.
Je me posais la question, est-ce qu'on ne peut pas raisonner de la même manière que pour les enseignants? On affecte les postes là où il y a des postes vacants, où il y a un manque. Hein?
Est-ce qu'il ne faudrait pas cadrer tout ça, en fait, par l'ARS, ça, par exemple?
Pourquoi pas? Je sais que dans tous les métiers, on cherche à joindre l'utile à l'agréable, et je le comprends, hein, je le comprends parfaitement. Et nous avons à répondre à des besoins d'enfants en difficulté, avec des fragilités, et c'est un choix de métier. Et deuxième question, y a-t-il pas un travail à faire avec les collectivités où on pourrait peut-être demander aux communes qui ont la compétence des écoles à mettre des locaux à disposition des orthophonistes qui s'installent, les aider à leur installation? Je crois que cet effort est fait actuellement par la commune de Salazie, qui nous en a parlé, enseignante, et je trouve ça formidable. Même si je crois qu'il faut vraiment user de toutes les... Je ne sais pas quel mot employer, là, mais pour flatter les orthophonistes à venir s'installer sur les communes des Hauts.
Oui, alors Salazie est en jaune, c'est-à-dire que ce n'est pas la situation la plus critique.
Et
c'est une commune des Hauts.
Salazie n'a pas... Je travaille sur la commune de Salazie. Salazie n'a pas d'orthophoniste. Nos élèves partent à Trapanou, Sainte-Suzanne et Saint-André.
D'accord. Bah, pourtant, la ville est en jaune, alors ça paraît bizarre.
Il n'y en a pas.
Donc, toute personne de Salazie doit descendre sur le littoral.
Les élèves font 2 heures de route aller-retour séance qui dure 35-40 minutes. Donc ça, c'est inacceptable pour un enfant.
Merci pour ces questions, Martine. Un meilleur cadrage, Lydie Marin, est-ce qu'il faut imposer un lieu d'installation pour certains professionnels? Par exemple, Salazie, pour qu'il y en ait un quand même.
Au national comme au régional, on est contre la coercition. On est une profession qui est raisonnée, rigoureuse, on essaye de faire au mieux.
Mais là, il n'y a personne à Salazie.
Mais en même temps, quand on voit effectivement quand les métropolitains et les métropolitaines arrivent ici, il y a quand même des offres de collaboration, c'est-à-dire qu'il y a de la demande. Les métropolitains n'arrivent pas et ne s'installent pas directement dans le sud ou dans l'ouest. Elles commencent par une collaboration, ça veut dire qu'il y a un poste vacant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc s'il y a déjà... Je sais. C'est une grande question.
Il y a deux choses. Il y a la question des communes, le travail avec les communes pour mettre des locaux à disposition, nous disait Martine. Est-ce que c'est une solution, ça?
Ça pourrait faciliter les choses, effectivement. Si on a accès à des locaux qui sont... Parce que nous, notre grosse difficulté quand on cherche à ouvrir un cabinet, c'est trouver un local qui répond aux exigences de PMR pour les accès aux handicapés, etc. Et il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc effectivement, ça pourrait faciliter les choses. Les mairies pourraient dire, on a mis à disposition des locaux aux normes, vous pouvez vous installer, demain vous ouvrez. Et ça pourrait être. C'est une des solutions. D'ailleurs, si vous avez lu les 20 propositions que le syndicat national a faites en 2018, donc il y a 2 ans déjà, on a cet axe-là, améliorer les infrastructures.
Le Covid, ça a aggravé la situation, toutes les mesures barrières, vous les appliquez vous aussi forcément?
Ah bien sûr, on est obligé de les appliquer, effectivement, oui. Ça a aggravé les choses parce qu'on s'est mis en pause. Même si on a pu faire bénéficier de soins en télésoins, en orthophonie à nos patients déjà pris en soins, on n'a pas pu faire de nouveaux bilans. Donc ça a mis l'activité en pause, donc ça a forcément rajouté du temps d'attente.
Et puis, comme vous le disiez, un orthophoniste, c'est pas comme un médecin. On est malade, on va chez le docteur, il fait son ordonnance et puis c'est fini. Là, avec vous, c'est un accompagnement sur une période plus ou moins longue.
Oui, tout à fait.
Combien de séances, vous disiez, au minimum?
Ben, en fonction de la codification qui a été utilisée, on est parti pour 50 séances, voire 100 séances pour un traitement initial.
À quel rythme?
Deux fois par semaine, trois fois par semaine. Ça dépend de la sévérité des troubles. Ça dépend de la disponibilité aussi des patients et si ce sont des enfants, la disponibilité de leurs parents. Et bien sûr, ça dépend de la disponibilité de l'orthophoniste.
Des personnes qui ont eu le coronavirus, une forme grave surtout, qui sortent de réanimation avec des difficultés pour parler, par exemple, vous envoyez dans vos cabinets?
On n'a pas fait d'enquête pour savoir, mais en tout cas, on est formé pour ça aussi. Et on a eu l'occasion, enfin, je ne sais pas si toutes les orthophonistes et tous les orthophonistes de La Réunion ont fait cette formation, mais on a eu la possibilité de faire une formation en visio pour justement nous aider à rééduquer et à soigner les personnes atteintes de Covid qui sont sorties de réanimation.
Mais là, c'est la même chose. Le Covid, c'est depuis le mois de mars. Donc, si on a un besoin d'orthophoniste, il faudra attendre là aussi très longtemps.
Il y a des urgences en orthophonie quand même. Hein.
Il y a des urgences. Mmh. Ça, vous ne nous l'avez pas dit depuis le
et
début.
Non.
Alors, qu'est-ce qui est considéré comme une urgence?
Le bégaiement. Un enfant qui commence à bégayer, il ne faut vraiment pas que ça s'installe. Donc, on essaye de les prendre rapidement, quitte à faire que de la guidance parentale au départ. Et s'il y a besoin d'une rééducation, alors là, on planifie des séances. Les postes AVC qui sortent d'hospitalisation. Les patients atteints du Covid qui ont des difficultés respiration, déglutition, articulation ou langage, s'il y a des troubles neurologiques qui ont été détectés. Il ne faut pas oublier non plus qu'on en est là aujourd'hui parce qu'il y a très peu d'orthophonistes dans les hôpitaux, dans les établissements médico-sociaux.
Oui, parce qu'on peut être salarié aussi. Hein. Il y a les libéraux
mais
et
oui.
On peut être salarié. Et vous, vous dites que les conditions ne sont pas idéales pour être salarié.
Oui.
Alors pourquoi? Expliquez-nous.
Bah écoutez, on est passé de bac plus 4 à bac plus 5 il y a quelques années. On est donc au grade master. On a, comme vous avez pu le constater, des domaines de compétences très larges. On a des... Comment vous dire? On estime que les grilles salariales qui se basent sur du bac plus 3 ne sont pas acceptables pour des professionnels de santé qui sont aujourd'hui à bac plus 5.
Donc vous n'êtes pas payé ce qui devrait l'être?
Exactement. Mais là, c'est pas que pour les orthophonistes. Hein. On est d'accord qu'au niveau de la santé, au niveau de tous les soignants, il y a les infirmiers, il y a les médecins. Enfin, il y a plein de choses qui se passent au niveau de la santé parce qu'ils sont pas assez rémunérés. On n'est pas une profession vénale. On veut juste que tous les patients puissent être suivis le plus précocement possible pour éviter que les troubles s'aggravent, se pérennisent, se chronicisent, donc deviennent chroniques, et que ça atteigne la qualité de vie des patients. Donc si on a plus d'orthophonistes dans ces centres, dans ces hôpitaux, la prise en charge est plus rapide, plus précoce, plus efficace, et on n'aura plus d'embolisation des cabinets en libéral.
Alors du coup, est-ce qu'on peut considérer que c'est un secteur en plein essor? Est-ce que vous recrutez? Est-ce que pour des jeunes qui cherchent du travail, et il y en a beaucoup à La Réunion, c'est une voie à suivre?
Ah ben, si ces gens ont envie d'être utiles, ont envie d'aider les gens, les études sont accessibles, mais là, pour l'instant, ils seront obligés d'aller à l'école d'orthophonie dans des centres de formation en métropole.
On a une idée du nombre de jeunes réunionnais, jeunes ou moins jeunes, qui partent se former en métropole?
On n'a pas les chiffres. On n'a pas fait d'enquête.
Alors, ce serait bien d'avoir ces chiffres-là pour savoir si un institut local, un centre de formation ici à La Réunion, pourrait attirer beaucoup de monde.
Alors, quand je dis on n'a pas les chiffres, c'est je n'ai pas les chiffres, soyons honnêtes. Mais on a au sein du conseil d'administration du SOR des...
Le SOR, c'est le syndicat hein, des orthophonistes
voilà,
de La Réunion.
Qui s'occupe du dossier depuis quelques temps maintenant, qui sont en relation avec l'université, l'ARS. Ils essaient de monter le projet, donc je suis persuadée que Audrey ou Hélène ont ces chiffres. Mais moi, je ne...
Audrey ou Hélène, c'est...
Alors, Hélène Dambrine, présidente du syndicat, et Audrey Noël... qui s'occupe de l'exercice salarié, mais aussi de d'autres dossiers.
C'est quoi la voie à suivre pour devenir orthophoniste? Il faut faire médecine d'abord?
Non. Avant de passer par la plateforme, comment ils appellent ça au lycée là?
Parcoursup.
Avant de passer par
Parcoursup,
voilà, on avait une entrée dans les centres de formation avec un concours. Donc on passait le concours, on l'avait, et on entrait dans les centres de formation. Aujourd'hui, bah, c'est en train de se modifier justement avec Parcoursup.
Et alors, c'est combien d'années d'études ?
5 ans.
5 ans d'études. Et oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, 5 ans d'études. Donc ça a été poussé plus loin que ça ne l'était avant. Est-ce que c'est bien ça ? C'est quelque part une exigence un peu plus poussée ça vous paraît bien ? C'était
ça nécessaire ? Ça nous donne accès, cette dernière année nous donne accès à la recherche en orthophonie. Il y a plein de choses, il y a plein de comités, de choses au niveau scientifique qui sont déjà en place pour essayer de faire évoluer la profession, pour qu'on essaye d'aller plus loin au niveau des recherches. Pourquoi ? Bah, parce qu'on a envie de comprendre encore mieux comment fonctionne l'être humain dans sa communication, dans son langage, comment on peut mieux les aider, comment on peut mieux traiter les troubles.
Et il y a beaucoup d'écoles d'orthophonie en métropole. Est-ce qu'on est sûr d'avoir une place, un Réunionnais qui veut partir, qui est prêt à quitter Lille pour tenter ses études ? Est-ce qu'il est sûr d'avoir une place ?
On n'a pas assez de centres de formation, déjà. Et puis les numerus clausus sont calculés par les ministères. Donc voilà, il y a un numerus clausus. Si le Réunionnais a envie de faire des études, et ben, il va passer par Parcoursup, etc. Et vous savez, Parcoursup, c'est en fonction des choix et en fonction des places disponibles. Ça, c'est Parcoursup qui décide.
Numerus clausus, on rappelle, c'est un quota en quelque sorte. Il y a un quota d'étudiants chaque année.
Hein. C'est ça.
Voilà. Est-ce qu'il y a un quota aussi d'orthophonistes qui exercent ici ?
Non.
Donc, on peut avoir autant d'orthophonistes qu'on le souhaite, finalement.
Absolument.
C'est encore une fois la liberté d'installation. On vous a invité par rapport à cette pétition. Vous en attendez quoi, concrètement ? Qu'est-ce qu'elle va devenir ? À qui elle va être remise ?
Alors, ce que nous attendons de cette pétition, c'est que, on attend le soutien de tout le monde. Parce que, on a beau, nous, orthophonistes, essayer de faire au maximum, plein de choses pour améliorer la situation. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et on a besoin du soutien de tous pour essayer de faire changer les choses, pour améliorer l'accès aux soins. Donc cette pétition-là, la pétition nationale, quand la campagne sera terminée, sera donnée à notre ministère de tutelle, le ministère de la Santé, mais aussi au ministère j'ai pas le nom qui m'arrive là.
Ministère des Affaires Sociales
Avec Madame Cluzel.
Pour les personnes en situation de handicap.
Exactement.
Donc affaire
ça sera
à suivre.
Et on attend justement que le gouvernement et ses ministères prennent conscience de la situation. C'est grave d'attendre. C'est grave de devoir laisser des patients attendre alors qu'ils en ont besoin tout de suite.
Et ce ne sont pas les patients, les familles qui diront le contraire, évidemment. Merci Lily Marin d'être venue nous parler de ce problème à La Réunion.
Merci à vous de m'avoir invité et de m'avoir permis de partager toutes ces informations.
Vice-présidente du syndicat des orthophonistes de La Réunion, bonne journée.
Merci à vous aussi.